Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Au ras des pâquerettes.
Vendredi 7 septembre 1764. À Monsieur François Morenas, courrier d'Avignon, chez Giroux Imprimeur. Monsieur, j'apprends ce soir qu'une femme âgée de 36 ans, Marianne Hébrard, a eu le malheur hier d'être étranglée et dévorée en partie.
L'ambiance.
Ouais.
Ouais,
c'est sympa.
C'était l'idée d'immerger, de projeter les gens sur. Avec un peu le trou, une dissociation, tu sais plus. On a vraiment joué sur la machine à remonter le temps, tu vois. C'était un des objectifs qui est venu au fur et à mesure.
Ce n'est pas la première fois que je rencontre Christophe et Giuseppe. Ces deux artistes sont déjà venus à la radio pour nous présenter leur exposition. Une exposition immersive aux impressions Chevalier nichées au cœur de l'Ardèche dans la petite ville du Cheylard. Les chroniques du Gévaudan. Cette exposition promet de transporter celui ou celle qui ose s'y aventurer dans un monde où réalité et légende se confondent. Curieuse et intriguée, je me suis donc rendue avec mon micro pour découvrir le résultat de leurs recherches et de leur travail.
Pierre de Longueuil.
Dès mon arrivée, les dessins de Giuseppe me plongent directement dans un autre univers. Chaque coup de plume raconte une histoire, chaque ombre et chaque lumière apportent leur part de mystère. Un univers qui, parfois, me semble fantastique, comme tiré de l'un de mes romans préférés. Pourtant, cette histoire est bien réelle. Et c'est là que c'est troublant, car les morts sont là, les lieux sont là, et les objets sont là devant moi, à présent.
Mais déjà, bienvenue sur les traces de la bête. Très heureux d'être aux impressions Chevalier. Joanne Chaplon a souhaité ouvrir son lieu à un espace culturel. Et donc, nous sommes deux artistes, Giuseppe et moi-même, Christophe Chaumette, donc, à avoir investi cette imprimerie qui est très importante pour nous. C'est un symbole précieux d'avoir des vieilles machines comme ça, puisque l'histoire de la bête est directement concernée par l'évolution de l'imprimerie à l'époque.
De façon si terrible.
C'est toujours un plaisir de retrouver Christophe. Pas besoin de lui poser trop de questions, sa passion parle d'elle-même. Il m'emmène à travers ses mots et ses récits dans les méandres de cette époque troublée, ressuscitant pour moi les ombres du passé. L'histoire de la bête du Gévaudan résonne à nouveau, mais cette fois-ci, elle est ancrée dans une réalité palpable, rendue vivante par le talent de ses artistes. Chaque pièce de l'exposition, chaque objet, chaque artefact nous rapproche un peu plus de cette époque révolue, nous faisant presque ressentir la présence des protagonistes de ces récits. Les murs de la salle semblent chuchoter des secrets oubliés, des histoires de courage et de terreur. Cette immersion totale dans l'univers des chroniques du Gévaudan est une expérience à ne pas manquer pour tous ceux et celles qui, comme moi, sont fascinés par le mélange entre la réalité et l'inexplicable.
Mercredi 12 septembre 1764. Monsieur Morenas, je viens de récupérer des descriptions de première main. Seul, les bergers ont réellement observé ce fameux animal dont on parle partout. Leurs témoignages sont formels, déconcertants. Aucun n'a reconnu un loup. Tous disent une bestia. Une bestia.
Avertissement aux visiteurs. Ce récit est basé sur des faits réels de l'histoire de France, qui eurent lieu en Gévaudan, de juin 1764 à juin 1767, sur les terres de l'actuel département de la Lozère, ainsi qu'en Ardèche, Haute-Loire, Cantal et Aveyron. Le premier conflit mondial de la guerre de 7 ans vient juste de s'achever en 1763, au détriment d'un royaume de France extrêmement affaibli par la perte de nombre de ses colonies au profit de l'Angleterre. Le règne de Louis XV est sur le déclin. Frappé par la mort successive à Versailles de son entourage et de ses héritiers, le roi menacé de tous côtés, est âprement détesté et moqué par son peuple. En Languedoc, la guerre de religion contre les camisards protestants, qui durait depuis 60 ans, se termine à peine, laissant les populations et les croyances profondément fracturées. Le siècle des Lumières voit une nouvelle révolution s'affirmer, pré-industrielle et pré-capitaliste, entraînant à la fois l'essor des manufactures et la destruction totale en Gévaudan des dernières forêts sauvages de Margeride. C'est dans ce contexte général particulièrement troublé qu'à partir du printemps 1764, et ce durant 1000 jours de terreur et de censure, une bête inconnue va surgir du néant comme une épidémie de peste pour perpétrer un véritable carnage. Ce fléau de Dieu va s'attaquer à plus de 350 innocents, dont une centaine au moins furent massacrés. Face à cette horreur imprévisible, la population, condamnée à une survie misérable, est enchaînée à la peur d'une mort atroce. Dans cette histoire vraie, violente et obscure, les personnages héroïques s'illustrèrent, résistèrent et échappèrent aux griffes du monstre anthropophage, pour souvent en livrer des descriptions déconcertantes. Il y eut aussi d'innombrables chasseurs, des hommes de foi, des dragons soldats, et des seigneurs qui traquèrent cette créature et connurent des échecs cuisants face aux mystères considérables qui chaque jour vont s'accumuler. En remontant le fil du temps, plongé dans les archives, les monuments et les paysages authentiques qui ont vu la bête, nous avons découvert un acteur oublié, contemporain de cette histoire, un dénommé Pierre de l'Ombre. Ce jeune homme fut certainement l'un des témoins ultimes de l'histoire, peut-être le seul qui ait pu rapporter les faits avec autant de vérité dans de précieuses chroniques commandées par le courrier d'Avignon. Les carnets de Pierre de l'Ombre, rédigés depuis cette époque reculée dans ce pays hostile, rongé par le chaos, nous ont fortement impressionnés.
Pierre de l'Ombre. Pierre de l'Ombre.
Donc je répète l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire de la bête du Gévaudan, c'est 1764-1767, ça a duré 3 années. On parle de 85 morts, de 250 attaques environ, hein. Tous les chiffres sont à prendre avec des pincettes. Sous la fin de règne même de Louis XV, voilà, au grandiose siècle des Lumières, c'est une sorte aussi d'épisode pré-révolutionnaire. La révolution sera dans quelques années. Mais voilà, ça engerme cette histoire incroyable de la politique, du religieux. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse depuis maintenant près de 12 ans avec Giuseppe, c'est, en partant sur cette aventure, c'est le territoire. Ce lieu qu'on appelle le Gévaudan, mais qui est en fait le Vivarais, c'est-à-dire l'Ardèche, la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire, mais aussi l'Aveyron. Voilà, tout ça a été en fait impacté par l'histoire de la bête. Et donc, notre aventure-là, moi en tant qu'homme de théâtre qui compte la bête depuis maintenant près de 20 ans, et Giuseppe qui est homme d'écriture et de bande dessinée, et l'idée a été à un moment de dire « mais faisons quelque chose avec cette histoire incroyable ».
Ils ont donc souhaité écrire et dessiner cette histoire sous forme de roman graphique. Et ainsi est né le projet des Chroniques du Gévaudan. Un roman graphique en 3 tomes qui paraîtra prochainement aux éditions Belloloco. Chaque œuvre, chaque trait de pinceau, chaque nuance de couleur semble murmurer des histoires oubliées, des secrets enfouis dans les couches du temps. Le travail initié, il y a plus de 10 ans, les a menés bien au-delà de ce qu'ils auraient imaginé. C'est un voyage à travers les époques, un retour dans le passé où la réalité et la légende se confondent, où les mystères de la bête du Gévaudan prennent vie sous nos yeux. Les dessins de Giuseppe sont une invitation à explorer ces contrées méconnues, à plonger dans les méandres de cette époque révolue. Les couleurs vibrent, les formes s'animent, et soudain, nous voilà transportés au cœur du Gévaudan, face à cette créature énigmatique qui hante encore les esprits. Le projet des chroniques du Gévaudan est bien plus qu'un simple livre, c'est une quête, une aventure qui a transformé ses créateurs. Quand je les écoute parler, ils sont presque envoûtés.
Je croyais savoir des choses sur la bête et Giuseppe m'a obligé d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. C'est en gros, mais oui, d'accord, mais comment les gens sont habillés? Comment les gens se déplacent? Sur quoi on se déplace? Quel type de route? Et donc, voilà, au final, comment étaient les forêts à l'époque? Comment on mange? Comment on se soigne? Cette plongée-là, dans ce temps-là, 1760, 64, c'est assez passionnant, on va très loin, donc il faut se plonger dans les documents, dans les archives, dans les textes, et puis le territoire. J'ai la chance d'habiter, moi, entre Mende et Saint-Flour, donc c'est vraiment les territoires de la bête autour du Mont Mouchet. Et l'exposition des chroniques du Gévaudan aux impressions chevaliers, ben, en fait, c'est une invitation au voyage, une machine à remonter le temps. Vous allez découvrir des centaines d'images, plus de 200 objets d'époque. C'est assez incroyable. Comment les gens écrivaient? Eh bien, on a des encriers, on a des plumes, on a comment les gens buvaient, on a des aiguières, on a des gourdes d'époque, comment les gens étaient armés. Voilà, et l'idée, c'est de vous inviter à découvrir tout ça.
Donc là, quand on arrive, on entre dans le cabinet de curiosité de Pierre de l'Ombre.
Exactement. Alors ça, c'est un des éléments qui nous semble très important. C'est la chambre de Pierre de l'Ombre, qui est un personnage qui a travaillé au Courrier d'Avignon et qui est originaire du Gévaudan et qui vient un peu sur le territoire pour essayer de comprendre quelle est cette affaire. Il faut recontextualiser, il va y avoir à partir du 30 juin 1764, Jeanne Boulet, qui est originaire d'Ardèche, puisque c'est Saint-Étienne de Loudarès, hameau de Hubac, qui va mourir, qui est officiellement la première victime de la bête, même si on parle d'un animal depuis quelques mois sur le territoire. On peut visualiser ça entre Langogne, Saint-Étienne de Loudarès, voilà, tout ce territoire-là. Donc la frontière Gévaudan-Vivarais à l'époque, Lozère et Ardèche aujourd'hui. Et puis, à partir de là, d'ailleurs, elle sera enterrée sans sacrement le 1er juillet 1764, donc 260 ans exactement. Et là, eh bien, Pierre de l'Ombre, qui travaille au Courrier d'Avignon, remonte au pays, puisqu'il est originaire du territoire, et va essayer de comprendre cette affaire. Donc il va suivre le syndic Lafont avec des chasseurs. Il va suivre le capitaine Duhamel avec les volontaires de Clermont-Prince. Et il va, et c'est ça tout l'enjeu de nos chroniques du Gévaudan, essayer de comprendre, de trouver des indices en immersion totale dans ce territoire. Et on essaie de faire vivre aux lecteurs futurs de la bande dessinée, puisque la BD va sortir au mois de janvier pour le Festival d'Angoulême, enfin, après 12 années de travail. Mais l'expo est déjà, c'est la quatrième dimension du livre. Donc déjà, on vous invite à découvrir plein de textes, de dessins et les objets qui nous servent à raconter cette histoire de Pierre de l'Ombre. Donc là, oui, quand vous arrivez, vous allez découvrir le cabinet curiosité. Pierre de l'Ombre vient juste de s'absenter. On ne sait pas trop pourquoi, mais il est en train d'écrire et on entend les lettres qu'il est en train d'écrire à Monsieur Morenas, qui est le rédacteur en chef du Courrier d'Avignon. Je vous invite à découvrir quelques sons.
Cette attaque a eu lieu en plein jour, aux portes du village du Cellier, paroisse de Saint-Jean de la Fouillouse. On parle d'un animal féroce, établi à présent dans le Gévaudan. Je ne sais si quelqu'un l'a vraiment vu. J'ai rencontré Monsieur Boulet, le père de la petite Jeanne, dont le corps a été retrouvé meurtri, de façon si terrible qu'on l'a enterré sans sacrement. Sans sacrement. Pierre de l'Ombre.
Pierre de l'Ombre, c'est le personnage principal de votre roman?
Oui, parce que... Oui, mais c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est un peu le on a découvert au fur et à mesure, en fait, qu'il a un peu de Giuseppe et un peu Christophe Chaumette, quoi. Il cumule le dessin. C'est lui qui fait les premiers dessins de la bête, hein, les premières gravures. Donc il faut quand même se rendre compte qu'on a des gravures qui viennent d'Allemagne, qui ont été faites, donc des représentations de la figure de la bête anthropophage, de la bête féroce, comme c'était dit à l'époque. Et donc, bah, c'est assez fabuleux de se dire que des gens... Alors évidemment, c'est souvent des doubles témoignages, c'est-à-dire à travers des lettres, ceux qui savaient écrire, à travers des témoignages oraux, eh bien, des gens se sont mis à dessiner cet animal. cette figure étrange. C'est pour ça qu'il y a, vraiment toute une diversité. On raconte qu'il y a des traits un peu distinctifs, une raie de quatre doigts depuis le col jusqu'au bout de la queue, et des questionnements par rapport aux griffes, est-ce qu'elles sont rétractiles ou pas, a priori, voilà, de la taille d'un taureau d'un an, les pattes avant plus grandes que celles de derrière, voilà, il y a tout un travail de description qui n'est pas qu'un seul témoignage. Il y a eu des dizaines et des dizaines de témoignages, c'est pour ça que la véracité d'un animal est là. Alors, est-ce que c'en est un ou plusieurs? Quel type d'animal? On parle de hyènes, de chiens enragés. Aujourd'hui, les théories partent vraiment sur le côté animal hybride. Alors, entre quoi et quoi? Telle est la question. En tout cas, à l'époque, on parle de léopard, de loup cervier aussi. Voilà, il y a plein de descriptions. On reconnaît une tache blanche sur le poitrail aussi. Voilà, ça, le mystère est extraordinaire. Des éléments d'attaque de cet animal qui, en gros, régulièrement... La description fait qu'elle va tourner autour du troupeau, donc là vraiment le côté circulaire, et va non pas attaquer les animaux, mais le berger ou la bergère. Et par exemple, on l'a vu à de nombreuses reprises se dresser sur ses pattes arrière. Voilà, c'est assez questionnant.
Questionnant, oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça y est, Christophe a réussi à m'embarquer. Entre la mise en scène, l'ambiance sonore et la voix de Christophe qui me berce, je ne sais plus où je suis.
Jamais vu.
Mon esprit est perdu face à cette description et je me prends au jeu. Qui était cette bête? Et surtout, quelle est sa véritable nature? Le mystère et les interrogations persistent encore aujourd'hui, malgré les siècles écoulés. Comment le mystère de la bête du Gévaudan peut-il encore hanter notre imaginaire?
De façon si terrible.
Nous poursuivons la visite, nous enfonçant toujours plus dans l'époque et l'histoire de la bête. Les dessins de Giuseppe recouvrent les murs. Chaque illustration me plonge un peu plus dans cet univers énigmatique. Chaque trait de crayon, chaque ombre et chaque lumière semblent vivre et racontent cette histoire. Les dessins de Giuseppe sont autant de fenêtres ouvertes sur une époque révolue que des fragments d'histoire qui défient le temps.
Voilà, plein de dessins. Tout ça quasiment n'apparaît pas dans la BD. Ça, c'est intéressant.
C'est des travaux de recherche.
Voilà, c'est énormément de travaux de recherche. Là, c'est fabuleux parce que Giuseppe nous amène son atelier. Et donc, toute la démarche, elle est de montrer les coulisses. En fait, c'est du dessin, c'est du crayonné, c'est de l'ancrage. Alors, Giuseppe est très, et d'ailleurs, pour nous, symboliquement, c'est tellement fabuleux d'être en Ardèche. Depuis nos discussions où nous sommes enfants, nous sommes passionnés d'art pariétal. Et donc, pour Giuseppe, quand il prend la plume, l'encre sépia, tous ses dessins sont faits à l'encre sépia et à la plume. Et bien, en fait, lui, il a le lien direct avec ses hommes, ses femmes, ses enfants. On ne sait pas en tout cas qui allait dessiner sur les parois, en particulier à Chauvet. Et donc, le travail est le même. On essaie de faire notre petite grotte à nous, notre petite tanière de la bête. Voilà. Et ça, c'est un des exemplaires. Là, vous pouvez admirer sur un des grands murs où on a plein d'images et d'affiches. Ça, c'est le seul petit élément qui vous donne une indication de ce que pourrait être la future bande dessinée. C'est-à-dire que chaque image est un original. Là, par exemple, on a... Où est-ce qu'elle est, la jeune fille? Je ne la vois pas. On l'avait mise quelque part. Ah oui, elle est là-haut. La jeune fille qui mange des baies. Mm-hmm. Voilà. Eh bien, voilà. Là, on a le dessin de... Voilà. Et c'est dedans. Ça va être une case. Et la plupart n'apparaîtront même pas dans le livre. C'est tout le travail de démarche, de recherche... de position, de posture, d'où l'importance ensuite d'arriver sur les accessoires, encore une fois, comment les gens étaient habillés, qu'est-ce qu'ils avaient. Par exemple, on a découvert dans les recherches que les chevaux avaient beaucoup de plaques muletières, des mules pour transporter, puisque comment on marchait, comment on se déplaçait. Donc les convois muletiers étaient très importants à l'époque. On est là-dedans. Et découvert des personnages, là vous avez donc Pierre de l'Ombre, Asseline, personnage que vous allez découvrir, Jeanne Boulet, capitaine du Hamel, et puis des têtes de bergers, des têtes de chasseurs, têtes de victimes aussi. Donc ça, c'est un jeune garçon que l'on va découvrir. D'ailleurs, il y a un portrait de lui à la fin de l'exposition, qui a été une victime au mois d'octobre-novembre 1764, blessé par la bête qui, a priori, va s'en sortir, mais la blessure est rude.
Moi, je suis fascinée par le travail de Giuseppe, de voir tous ces dessins. J'ai l'impression qu'en plus, c'est des personnages qui ont... Alors, bon, ça même s'ils ont existé, c'est vraiment eux, quoi, comme s'ils avaient peint des tableaux.
Ils trouvaient leur âme.
Ouais.
On essaie de ne pas raconter n'importe quoi. Et en même temps, qu'était la vérité? Donc, en tout cas, on essaie de s'approcher au plus près. C'est pour ça qu'on rencontre des gens sur le territoire. C'est pour ça qu'on essaie d'être dans le respect des victimes et d'essayer d'accompagner le lecteur dans... comment dire, sans, sans trop raconter n'importe quoi, et de vous immerger là-dedans, à travers les blessés, les victimes, les récits. C'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire dans laquelle il y a mille et une histoires.
Mille et une histoires, Christophe a raison. Ce n'est pas la première fois, et probablement pas la dernière, que je veux entendre parler de la bête.
Mercredi.
Ce sont d'ailleurs toujours des travaux qui n'apportent pas de réponse exacte, laissant le spectateur en suspens, sans certitude, et qui laissent planer le doute, alimentant ainsi la légende. Je suis convaincue que c'est là, précisément, que réside la fascination pour cette bête, tant dans l'histoire elle-même que dans mes souvenirs d'enfance. C'est flou, indéfinissable et surtout irrationnel. Je m'interroge et me demande, qu'est-ce qui fait que les recherches de Giuseppe et Christophe seraient différentes des autres ? Peut-être est-ce leur approche unique, leur capacité à mêler réalité historique et des fragments de récits, ou encore à plonger au cœur de l'énigme avec une passion palpable ? Leur travail m'entraîne dans une exploration où chaque détail, chaque nuance devient une pièce du puzzle que je tente de reconstruire dans mon esprit. Christophe, avec son talent de conteur, me guide à travers cette histoire.
Il y a un peu moins de forêts à l'époque, enfin il y a même beaucoup moins de forêts à l'époque que maintenant. Voilà, et d'ailleurs ça fait partie de nos recherches aussi, qu'on essaie d'avoir un angle singulier quand même pour raconter cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et redites et qui parfois, par exemple la figure de Chastel, personne ne sait trop qui il est en fait, si on réfléchit bien pour qui il travaillait par exemple. Et on a pas mal abordé aussi la question des forêts, l'exploitation forestière de l'époque qui nous questionne beaucoup et donc on poursuit les recherches qui concernent, voilà, il y a tout un aspect par exemple au niveau de ces recherches sur le contexte général, la fin de la guerre de 7 ans, la nécessaire, à travers les besoins au niveau de la France, de la reconstruction de la marine. Et donc, il faut du bois. Et le bois, à l'époque, c'est l'or brun. Et donc, il fallait avoir toute une démarche, tout un cheminement pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y ait une exploitation forestière au moment où la bête était présente. Et autour du Mont Mouchet, il y a des choses de cet ordre-là. Voilà, donc il y a... Vous allez pouvoir découvrir des portraits, en particulier d'un seigneur, Nicolas-François-Julie de la Tour d'Auvergne d'Apchier. Et puis, vous allez découvrir plein d'objets. Voilà, on a des sabots, on a des gravures d'époque sur les filatures. Il y avait des gruyers, les gruyers avaient l'art de voir quel bois il fallait. Ça existe encore aujourd'hui, mais déjà à l'époque, c'était très très poussé. On a des estampes d'époque, donc c'est du temps de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Eh bien, ces estampes sont assez extraordinaires puisqu'on voit des arbres et à l'intérieur, il y a le bois potentiellement qui pourrait être utilisé, en particulier les bois courbés, pour la reconstruction de la marine. Voilà, ça vous pouvez découvrir ça dans l'expo.
Voilà que les objets prennent de plus en plus de place dans l'exposition. Des objets que j'ai déjà eu la chance de voir mille fois. Des sabots, des pistolets, des vieux livres. Des artefacts que l'on peut trouver dans n'importe quel musée. Mais grâce à Christophe, je découvre des détails insoupçonnés. Sa passion et ses connaissances transforment ces objets ordinaires en pièces uniques, empreintes de mystère. Sans lui, j'aurais très certainement ignoré la richesse de ces trésors historiques, et c'est cette perspective qui nourrit mon intérêt et attise ma curiosité pour la bête.
Tous disent une bestia. Une bestia.
D'ailleurs, c'est intéressant, d'ailleurs, ta remarque, Louise, parce que, en fait, on se questionne beaucoup sur est-ce qu'il faut... On n'est pas un musée, hein, on est deux artistes indépendants, totale indépendance. L'ensemble de ces objets nous appartiennent, on a fait ce cheminement-là depuis des années. Et en fait, cette liberté-là, on n'est pas muséal. Pourtant, on a poussé très loin les recherches historiques. Je peux vous dire que c'est des mini-traités d'histoire, on pourrait dire. Hein. Voilà, il y a un vrai travail de démarche important, mais on est aussi artiste. Donc l'idée, c'est de vous embarquer. Et là, tout le questionnement, c'est est-ce qu'on explique des choses, est-ce qu'on donne des indices, ou est-ce que des fois, on laisse le mystère. Voilà. On a une canne de berger, par exemple, où il y a une bête gravée dessus. Voilà, ça c'est passionnant, hein. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette bête, elle a quand même les oreilles exactement avec une tête un peu de hyène. C'est un berger qui a vu la bête qui aurait fait ça. C'est incroyable. On a aussi des lettres d'époque, hein, des documents que l'on a glanés au fur et à mesure. C'était pas prévu au départ et puis en fait les hasards de la vie ont fait que... Donc on a une lettre par exemple de Jean-Baptiste de Marin, comte de Montcamp, lieutenant général des Amis du Roi, qui s'est occupé lui-même de l'affaire de la bête. Voilà, donc on a un document de 1764, au moment même où la bête va commencer à sévir. Voilà, ça c'est assez fabuleux. On a aussi un document qui pour nous nous a beaucoup touché. C'est Louis XV et le ministre Choiseul, qui est en lien avec l'évêque de Mende, Monseigneur Choiseul-Beaupré. Voilà, et donc là, c'est un vélin, c'est de la peau, en fait, et ils écrivaient là-dessus à l'époque. Voilà, c'est des choses qui nous font rêver beaucoup. Les objets nous ont parlé énormément. Les objets nous ont parlé, ils nous ont guidés, et guident d'ailleurs une partie du récit. Voilà.
Description que l'on fait de cet animal. Taille, plus haute qu'un grand loup, pareille à celle du bouvillon d'un an. Dos, grisâtre, sombre, avec des poils rougeâtres. L'échine, marquée d'une grande raie noire, du col jusqu'au bout de la queue. La queue, fort large, touffue, très longue. Fourrure, faite de soie épaisse et ample. Des dents si tranchantes qu'elles séparent des bras du corps, ainsi qu'un rasoir, et laissent des marques de crocs très nettes. Se dresse sur ses pattes arrière, griffes redoutables, pouvant écharper sans effort un corps des plus robustes. Yeux étincelants, regarde longtemps son monde avant de s'enfuir. Oreille droite, en forme de triangle, et petite, comme des cornes. Poitrail puissant, rougeâtre et gris. Pattes avant, massives, aptes à écraser et étrangler. Tête large, finissant en museau de lévrier. Pousse des grognements et des cris qui ressemblent à un rire.
Assez rapidement, on tombe sur un objet qui attise notre curiosité. Et alors, c'est marrant, là, il y a une affiche. La dernière fois que je suis venue à l'exposition, il n'y avait pas d'affiche. Et il y avait vraiment tout un mystère qui planait autour de cet objet-là qui était juste déposé au milieu d'un coffre, sur un petit drap. Hop, juste, on met ça là, on n'en dit pas plus. Tu veux nous décrire cet objet ?
Alors, il est écrit sur l'affiche. Et on vous invite à venir découvrir ça à l'exposition. Gantelet de combat à griffes. Une création originale. Voilà. Et donc, c'est en fait, très concrètement, la bête, le mystère demeure, on ne sait pas. Alors, la véracité de la présence d'un animal est là. Mais par contre, évidemment, dans les théories, en particulier quand ça concerne les décapitations et bien d'autres éléments et événements, on peut se poser la question s'il y a une présence humaine. Alors, qui, que, quoi, comment, pourquoi ? Là, le mystère s'épaissit encore. Et donc, dans cette vision-là, c'est une invitation à se poser des questions quand on regarde les blessures, quand on lit les témoignages, les lettres, les registres paroissiaux. Sur les blessures, il y a énormément de griffures, souvent des griffures au niveau du cou, du visage, du crâne. Je vous passe les détails. Mais ces blessures-là, dans l'hypothèse où ça serait fait par un homme, puisque ça fait partie des nombreuses hypothèses, comment peut-on faire ça ? Comment un homme peut faire ça ? Et nous avons trouvé cet objet étrange qui donc s'appelle gantelet de combat, qui existait à l'époque, qui existe d'ailleurs dans bien d'autres pays. Hein, ça vient pour certains d'Inde, voilà, mais ça existait.
Je reste béate devant ces gants de combat pendant quelques instants. Les idées s'entrechoquent dans mon esprit. Des ouvertures en cuir, de quoi introduire facilement les mains prolongées d'immenses griffes de quelques dizaines de centimètres. Mon imagination dévore peu à peu l'objet présent dans ce petit coffre. Subjuguée par l'infinité de questions qui s'imposent à moi et prise de terreur par cette invention humaine, je ne peux m'empêcher de me demander qui avait conçu de telles armes et à quelle fin.
C'est des choses assez un peu courbées quand on a découvert ça. C'est d'une beauté. Enfin, l'objet, il est superbe. Ça fait un tournebille. Là, aujourd'hui, on a les machines énormes. C'est à l'époque, tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Les forêts en feu, hein, parce qu'évidemment, qui dit... Là, alors d'ailleurs, ça renvoie à cette histoire incroyable. Une grosse partie de la réflexion à un moment, et on a presque dévié de notre scénario, c'est un objet que l'on présente, que l'on a appelé le Graal de Margeride, que l'on peut voir, et qui raconte en creux l'exploitation forestière, ces forêts-là. Car pour faire le verre, il faut du bois. D'où vient le bois ? Pourquoi l'exploitation de ce bois ? Qu'est-ce que ça raconte ? Le verre, à l'époque aussi, hein, c'était aussi beaucoup pour la noblesse. Et donc, on a découvert qu'une verrerie royale s'est installée légèrement postérieurement à la bête, sur le territoire, en l'occurrence du côté de Védrines-Saint-Loup. Il existe encore quelques verres, mais ils sont très fragiles, parce qu'ils ne sont pas de très très bonne qualité. C'est des verres qui maintenant, si on met de l'eau dedans, ils vont disparaître et se dissoudre. C'est assez singulier. Mais il y en a encore quelques-uns qui existent, et on a la chance d'en avoir un que l'on présente à l'exposition. Un verre de l'époque de la bête. Quand on réfléchit, on se dit que ces petites bulles qui sont dans ce petit verre que l'on a devant nous, qui paraît tout fragile, eh bien, ces bulles d'air, c'est l'air de l'époque de la bête. Le bois utilisé pour faire ce verre, c'est le bois des forêts. Des forêts de Nicolas-François-Julie de la Tour d'Auvergne. Et puis, c'est d'une beauté, c'est d'une fragilité extrême. Et juste avant cette verrerie, ce grand seigneur Nicolas-François-Julie de la Tour d'Auvergne a vendu des centaines de milliers d'arbres, voilà, sur ce territoire. Et la bête, ça c'est une des questions, pourquoi la bête va rester autant de temps sur ce territoire-là? Et donc les recherches continuent, on continue à se questionner, à essayer de trouver des documents, à comprendre les rouages. Comment se fait-il qu'un animal, entre guillemets, sauvage, alors là après, ça rentre dans les théories, les questionnements, un ou plusieurs d'ailleurs, hein, car on parle de plusieurs bêtes, en tout cas il y en aura plusieurs qui seront tuées, par l'envoyé du roi, par Jean Chastel, par Maître Rinchard aussi. Bref, eh bien, on se dit, mais comment se fait-il qu'elle soit restée sur cet espace-là qui, au niveau géographique, n'est pas si grand que ça?
Propulsé dans un autre temps, une autre époque, je tente de refaire le fil de l'histoire, la vraie, celle que l'on a l'habitude d'écrire avec un grand H.
Voilà, les portraits, ça marche.
On a toute une série de portraits, je pense qu'il y en a au moins 15, même plus. Combien ?
26 portraits.
26,
ouais.
Et c'est des notes du journal de Pierre Delombre. Donc c'est des notes qui ont été retranscrites, réécrites du journal que vous avez trouvé.
De Pierre Delombre. Bah, c'est tout l'enjeu, c'est tout la manière aussi de raconter cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment raconter cette affaire. Il y a tellement de choses. En fait, encore une fois, c'est pour moi l'une des plus belles histoires du monde, vraiment, avec tout ce que ça implique. Et donc, avec Giuseppe, notre réflexion a été comment on peut raconter. Et les personnages sont apparus, c'est-à-dire qu'on a rencontré des personnages incroyables. Il y a des témoignages de bergers, des témoignages de chasseurs. Il y a tous les personnages connus maintenant de l'histoire de la bête quand on s'y penche un peu. Le syndic Lafon, voilà, les lettres du capitaine Duhamel, etc., etc. Toute une correspondance avec Moncamp qui était l'intendant du Languedoc, Balinvilliers qui était l'intendant d'Auvergne, parce que l'Auvergne a été très touchée. On parle du Gévaudan, mais pour nous c'est aussi une affaire très liée à l'Auvergne, le Cantal aujourd'hui, la Haute-Loire, voilà, il y a eu quand même vraiment beaucoup d'attaques et de choses comme ça, sachant qu'à l'époque Saugues était du côté du Gévaudan, voilà, donc on aurait pu dire Saugues pour être en Lozère, or c'est maintenant en Haute-Loire. Voilà. Et puis des personnages extraordinaires, là je pense à John Holker, là nous sommes devant son portrait, avec les recherches qu'a faites Pierre Delombre sur ce personnage, qui est quand même un espion anglais et qui est venu en France et reconnu en France pour développer des manufactures, puisque la réalité économique c'était aussi l'industrie de la laine, l'industrie du bois, voilà. Et donc on commence à, c'est pour ça qu'on parle avec Giuseppe, c'est très important, d'épisodes avec la bête du Gévaudan qui nous permet de comprendre cette époque, un côté pré-capitaliste, pré-industriel extrêmement important, où on voit tous les schémas dans les documents, les estampes de machines à pousser à un niveau de... Enfin, c'est dingue quand on voit la qualité, chaque rouage est dessiné, explicité. On est vraiment dans un changement de temps. Et la bête apparaît au milieu de ça.
Mercredi 19 septembre. Cher Monsieur Morenas, l'animal semble avoir été localisé aux abords de la forêt de Marcoire. D'après les chasseurs, sa tanière se trouverait dans des parties escarpées de la forêt, loin des hommes, très difficile d'accès. Les villageois parlent d'endroits anciens où personne n'ose s'aventurer. Tous les disent hantés. Le seul chirurgien qui a pu examiner les victimes dit avoir constaté les blessures suivantes. Profonde morsure au cou, peau du crâne déchiquetée, Bras arrachés à moitié rongés. Seins lacérés. Poumons dévorés.
Donc là, il y a d'autres objets. Des fusils. Des objets de médecins, enfin, toute une outillerie, donc alors, je suis pas spécialiste, des ciseaux, des
scalpels,
c'est ça, des scalpels.
Alors ça, cette vitrine et la présence de David Courtois, sieur chirurgien-major de la Marine royale, c'est tout à fait intéressant et ça nous a passionnés avec Giuseppe. C'est-à-dire qu'en gros, suite à la découverte des blessures, et d'ailleurs ça remet en cause énormément le nombre de victimes. Alors évidemment, dans les registres paroissiaux que l'on peut trouver, il y a officiellement 85 victimes, mais quand on a discuté avec des spécialistes, vu la médecine de l'époque, alors là aussi médecine officielle à l'époque, et puis potentiellement aussi médecine, on va dire, plus du côté des guérisseurs. Voilà, on a un livre de 1764 qui présente la dissection d'un cadavre, comment ça pouvait être effectué. Et puis, on a trouvé, glané quelques objets pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il pouvait être utilisé à l'époque pour potentiellement soigner les victimes, hein, dont je parlais, des griffures, des arrachements, des collations de peau du crâne, etc., etc., des blessures assez graves, de morsures, de griffures. Et donc, l'enjeu a été tout à coup de pouvoir se dire, voilà, comment les gens pouvaient survivre potentiellement. Et là, ça questionne. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, pour certains, quand on lit simplement les lettres de l'époque, les témoignages, dont certains sont dans le Courrier d'Avignon, la Gazette de France, les journaux de l'époque, ou l'Année littéraire, eh bien, tout à coup, avec José, on a découvert que, attention, là, la personne, vu les blessures, non, c'est clair que là, trois jours après, une semaine après, cette personne a été morte. Sauf qu'elle n'a pas été déclarée officiellement mort de la bête.
Cette histoire devient de plus en plus fascinante et je dois bien avouer qu'elle envoûte et déconcerte à la fois. Nous nous trouvons face à un mystère qui semble défier toute logique et toute explication rationnelle. Comment est-il possible qu'une telle présence ait pu se dérober à l'analyse scientifique et aux explications conventionnelles? À mesure que je m'avance sur les pas de la bête, je comprends mieux pourquoi Christophe et Giuseppe se sont imprégnés de cette histoire avec une telle intensité et pourquoi leur obsession, leur fascination et leur dévouement les poussent à partager leurs découvertes. Leur immersion totale dans ce monde obscur semble également avoir transformé leur perception de la réalité. Et maintenant, cette quête se reflète en moi. Mon désir d'en savoir plus, de percer le mystère qui se cache derrière cette créature insaisissable, grandit de minute en minute. Chaque indice que je découvre, chaque écueil que je franchis, semble ne faire qu'ajouter de nouvelles couches à ce mystère fascinant.
Le 7 octobre, une fille d'Apché a été découverte sans tête, qui a été retrouvée 8 jours après. Le 15 octobre,
un garçon
de 10 ans, du côté du comte Andrès, prince de Sainte-Colombe de Père, a été retrouvé les poumons dévorés, la tête coupée à ses côtés. Et hier soir, Marguerite Malige a été identifiée par les siens malgré sa tête disparue. Elle avait 19 ans. Ces meurtres d'une sauvagerie ahurissante aggrave encore la terreur qui s'empare de tous. Pierre de l'ombre.
La bête.
Pierre de l'ombre.
Et après, dans la question, qu'est-ce que c'est comme animal? En tout cas, et ça nous questionne beaucoup avec Giuseppe, qui nous a obligés à rencontrer un médecin légiste. C'est-à-dire qu'en gros, notre questionnement est sur les décapitations. Il est avéré, dans les registres paroissiaux, 16 décapitations, en particulier sur vraiment la première année et demie. Et là, quel animal décapite? Voilà. Donc après, et les bergers, les chasseurs, parlaient vraiment de bestias, de bêtes, et peu de loups. C'est ceux qui écrivaient, comme le syndic Lafont, les capitaines du Hamel, ou ensuite les envoyés aussi du roi. Il y aura des chasseurs de loups, les de Neval. Il y aura son porte-arquebus, François-Antoine. Eux avaient tendance à parler de loups, mais quand même avec des choses très étranges. D'ailleurs, on l'a mis en contrebalancement avec un crâne de Dinocrocuta gigantea. C'est là un moule d'un crâne original de hyène préhistorique, environ 5 millions d'années. Et en fait, alors là aussi, c'est quand même fabuleux. Giuseppe a eu la prescience de la présence de cet animal. C'était en gros, mais quel animal aujourd'hui pourrait décapiter? Une hyène aujourd'hui, etc., ne peut pas décapiter, surtout dans les descriptions telles qu'elles sont faites, en quelques minutes. puisque des fois, les victimes seront retrouvées pas très longtemps après, la tête à 100 pas de là, quand même. Voilà, c'est très troublant. Au-delà de la potentielle présence d'un homme, là, c'est encore autre chose. Mais dans l'idée d'un animal, eh bien, la découverte de Giuseppe a été tout à coup... Mais oui, mais donc une hyène préhistorique, géante. Et donc, on a réussi à trouver cette reconstitution qui est incroyable et très, très parlante pour nous. Et alors, le hasard dans nos recherches, après avoir même eu ça, c'est que Giuseppe a découvert que le crâne holotype, c'est-à-dire le premier crâne trouvé de hyène géante préhistorique, a été trouvé non loin d'ici, mesdames et messieurs, puisque autour du Puy-en-Velay. Voilà, donc sachez qu'à l'époque, il y a quelques centaines de milliers d'années, eh bien, il y avait des hyènes préhistoriques sur votre territoire. Voilà. Or, quand on voit là où a été découvert le premier crâne, dans les années 1800 et quelques, j'ai oublié, eh bien, en fait, on est à 50 km à vol d'oiseau de là où est mort la bête du Gévaudan. Voilà, qui était à Auvers, la Saugne d'Auvers. Ça questionne.
20 octobre 1764. Monsieur, voici les derniers événements advenus en Gévaudan. En quelques semaines, la bête s'est rapidement déplacée au nord-ouest du pays, vers les hauts plateaux de Margeride et d'Aubrac. Margeride et d'Aubrac. Depuis plusieurs jours, l'animal rôde du côté du château de la Baume. Un jeune garçon a été attaqué et surveillé son troupeau. Il ne doit la vie sauve qu'à une charge de ses vaches. Jean Ruyotor a été défiguré, la peau du crâne à partie reportée, la poitrine écharpée. Il restera probablement imbécile à vie. L'animal portait une vaste tache blanche sous le poitrail, en forme de cœur retourné. Des centaines d'hommes solidement armés ont été rassemblés en toute hâte. Tous prétendent cette créature à l'épreuve des balles.
Là, on a tout l'arsenal qui pouvait être utilisé, j'imagine, pour chasser ou pour partir en expédition, pour aller justement chercher la bête. Il y a quelques objets... Qui valent le détour, peut-être ce fusil, non, c'est même une baïonnette.
Alors justement, ça c'est une des pièces maîtresses de notre cabinet de curiosité, qu'on a appelé le cabinet des ombres. Et ça c'est vrai que cet objet vient du territoire, il a une bête gravée dessus au niveau de la crosse, c'est un double canon silex, et puis c'est un objet qui... possède au bout une baïonnette double canon du 18e. Voilà, donc c'est un objet purement... Alors évidemment, c'était évidemment que les nobles ou les militaires qui pouvaient avoir ce type d'objet. Là, c'est plutôt du côté de la noblesse. Voilà, c'est des objets remarquables, incroyables. Ça questionne sur la puissance de tir, de feu, puisque la bête a été tirée à de nombreuses reprises, là où les bêtes, encore une fois, tirées à de nombreuses reprises, poussant un cri, souvent se redressant sur ses pattes, etc., etc. Voilà, mais en tout cas, c'est pour ça qu'à un moment, on l'a dit invulnérable, avec un don d'ubiquité de pouvoir aller d'un endroit à l'autre. Donc on a glané, c'était comment étaient les épées d'époque. C'est comme ça qu'on a retrouvé, ça c'est aussi extraordinaire et incroyable, en fait, la reconstitution des épées, sabres de l'époque de Louis XV. Donc ça, c'était tout à fait passionnant. Et puis Giuseppe, c'est là où c'est formidable. La bande dessinée, moi, c'est vrai que je connaissais pas trop ça dans le théâtre et je suis pas obligatoirement au départ reconstitution, mais tout à coup, mais comment les gens buvaient? Avec une gourde. Comment étaient les gourdes au 18e? Donc on a une gourde au 18e. Comment étaient les crosses? Vous voyez, les crosses sont différentes à chaque fois selon le statut. Est-ce que l'on est simple soldat? Est-ce qu'on est cavalier? Est-ce qu'on est plus, voilà, on a même des dragons là qui sont suspendus. Et ça renvoie à tout en fait, puisque même au niveau du territoire, eh bien, on a trouvé sur le territoire même du Gévaudan un collier par exemple complètement en métal que l'on mettait sur les chiens quand ils allaient à la chasse au loup. Voilà, c'est des choses tout à fait passionnantes. Là, c'est pour achever les animaux. On a aussi un tambour de l'époque. On a des pièges, évidemment, pièges à loup, pièges à ours. Et puis, on a aussi un portefeuille. Ça, c'est pour nous très, très, très singulier. C'était les sacs à dos de l'époque. Donc, venez découvrir les sacs à dos du 18e. C'est assez sympathique. Cuir et bois, voilà, et un peu métal.
Je suis de plus en plus impressionnée par le détail des recherches qu'ils ont effectuées, ainsi que leurs connaissances à ce sujet. Que ce soit les récits, les personnages historiques, les objets, allant du simple sabot à la baïonnette double canon silex, Christophe connaît tout. Sur la bête et l'histoire de l'époque, il semble imparable.
Il y a toute une toute une vitrine hein, qui raconte les routes, l'utilisation des routes. Par exemple, le fait de se dire, tiens, mais sur les cartes géographiques à l'époque, alors déjà, qui avait des cartes géographiques? La noblesse et les militaires, hein, parce que c'est trop cher, ou les bourgeois. Donc évidemment, en gros, les routes ne sont pas notifiées parce que c'est des secrets militaires. Donc on vous présente en original une carte du Languedoc, mais qui implique, on voit l'Ardèche d'ailleurs, hein, avec les noms d'époque. Cette carte est de Louis XIV, donc antérieure, mais ils avaient encore ces documents, elle était encore valable. Et puis on a, là c'est assez fabuleux, une carte extraordinaire pour nous, qui date exactement de 1764. On peut voir là, vous voyez, un petit peu au-dessus, là, carte générale, et en dessous, juste au-dessus de la ligne, 1764, avec tout un travail de circularité qui part de Paris, de Versailles. Et donc, c'est toute la possibilité de montrer le nombre de déplacements, de jours que ça pouvait impliquer, d'aller, par exemple, de Versailles en Gévaudan, et puis inversement, du Gévaudan jusqu'à Versailles. Alors, la presse, quand on réfléchit, s'en empare, mais c'est pas que simplement Courrier d'Avignon, Gazette de France et tout, hein, c'est-à-dire qu'encore une fois, Amsterdam va en parler, il va y avoir des gravures allemandes et même ça va passer les océans puisque en Amérique, Gazette du Québec, de Montréal et puis d'autres endroits en Amérique vont parler de cette affaire de la bête du Gévaudan. Même les Anglais vont se moquer un peu du roi de France. Ça va devenir une affaire politique internationale.
28 novembre 1764. Saint-Chély-d'Apché. Auberge chez Grassal. À monsieur François Morenas, Courrier d'Avignon chez Giroux, imprimeur. Monsieur, l'armée vient de prendre officiellement la direction des opérations alors qu'il neige depuis près d'un mois. 25 novembre, à 5 heures du soir, une femme a été retrouvée étranglée paroisse d'Aumont. Lendemain, les enfants de la dénommée Catherine Valli ont consenti à ce que le capitaine Duhamel fasse rhabiller son cadavre d'une mauvaise jupe, le remettre à l'endroit exact où il avait été trouvé et le fasse empoisonner à la noix vomique pour piéger cet animal de malheur. Pendant 3 nuits consécutives, les volontaires de Clermont-Prince ont tenu l'embuscade à une demi-portée de fusil du corps, sans succès. Selon la rumeur, plusieurs carnassiers sont à la manœuvre. Les corps, impossibles à identifier, se multiplient et les autorités ont décidé de généraliser les inhumations sans sacrement ainsi que les prières publiques. Manifestement, cette bête se rit de tous. Je ne sais ce qu'il va advenir de notre pauvre Gévaudan.
Et on a donc, ouais, tout un travail incroyable. La Josépé a passé des jours et des jours à reconstituer le Gévaudan. Vous pouvez découvrir sur une bâche le... comment dire... La réalité géographique telle que pouvait être le Gévaudan à l'époque, avec d'un côté le Rouergue, l'Auvergne, le Velay, le Vivarais, donc l'Ardèche. Et là, on a essayé de symboliser, signifier les noms et les endroits des villes où, qui existent aujourd'hui encore. On voit d'ailleurs qu'il y a des endroits qui ont disparu. Et c'est pour essayer de comprendre, il y a une flèche ici, Saint-Étienne-de-Loudarès, à Maud-du-Bac, la première attaque. Et l'autre flèche tout en haut, au niveau du Mont Mouchet, la mort de la bête. Donc on se rend compte que la première attaque n'est pas en Gévaudan, et la mort de la bête, c'est pas en Gévaudan, c'est en Auvergne. Voilà. Et donc ça permet de voir aussi, alors, cette carte de Cassini, on a réussi à la voir en très haute définition, il y a tout un travail de remontage incroyable qu'a fait Giuseppe, et donc c'est vraiment la possibilité de voir les détails, et surtout comment était l'état du territoire et des forêts. Et c'est là où on se dit, mais comment les Cassini ont fait ça à l'époque, hein. On a d'ailleurs un objet qui montre comment ils ont pu faire. Une sorte de triangulation. Alors je ne saurais trop dire, c'est très très technique pour voir ça, mais là, c'est extraordinaire. Et on comprend un peu comment était le territoire, et les forêts en particulier, l'état des forêts. Et ça, ça questionne beaucoup. Et ça, ça a été fait très légèrement après la bête. C'est pour ça qu'elle est tout à fait intéressante et parlante. Voilà. Il y a en particulier des éléments fort intéressant pour nous, ce qui montre par exemple l'état et des endroits, par exemple avec les moulins de sciage. Voilà, les moulins de sciage qui étaient faits pour scier le bois. Et là, on découvre plein de petits secrets. Il faut être curieux, il faut se plonger dans la cartographie, c'est passionnant. C'est passionnant.
Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes les seuls à mener des recherches pareilles sur le Gévaudan.
Non, c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire que les recherches continuent. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on adore, avec l'expo, avec la future BD, mais les images que l'on présente, ou le travail théâtral, c'est rencontrer le public, et le jeune public en l'occurrence, c'est les futurs chercheurs. Il y a encore des documents à trouver, il y a encore une réflexion à avoir sur la bête. Ça renvoie à tellement de choses. C'est pas que de l'historique, ça renvoie à beaucoup de choses, et le mystère demeure. C'est le plus beau des romans policiers.
Il est fort à parier que les lecteurs du Courrier d'Avignon n'ont pas fini d'en entendre parler. J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre humble et fidèle serviteur, Pierre de l'Ombre. Veuillez recevoir, monsieur Morenas, mes meilleures salutations.
Christophe Chaumette et Giuseppe, avec leur passion débordante et leur curiosité insatiable, vous invitent à redécouvrir cette histoire. Cette exposition est une immersion dans un univers où chaque mot, chaque description éveille notre imagination et attise notre curiosité. Alors laissez-vous embarquer par les chroniques du Gévaudan et plongez au cœur de l'Ardèche pour une aventure artistique inoubliable. Ce reportage a été réalisé par RDB Radio des Boutières pour mettre en avant l'exposition et le travail de Christophe Chaumette et de Giuseppe sur les chroniques du Gévaudan. J'ai réalisé l'ensemble du reportage à partir de la voix de Christophe Chaumette, la bande-son de l'exposition réalisée par Alexandre Pividal et la musique d'habillage et run de Kai Engel. Je remercie chaleureusement Christophe et Giuseppe pour le temps qu'ils m'ont consacré et leur confiance quant à la réalisation de ce reportage. Je m'appelle Louise Koenig et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.
Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.